Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Un document d'Anne Gauthier, écrit et réalisé par Norbert Letrolle, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Le 5 février 2016, magistrats, avocats, experts et policiers se retrouvent tous à la Maison Rose du quartier Saint-Simon.
Le brigadier-chef Stéphane Robert se souvient.
Edith Scaravetti, là au milieu. C'est un petit bout de femme qui est là au milieu.
Et elle va, avec un naturel parfaitement confondant, reproduire des gestes qu'elle n'a pas pu improviser. Elle a reproduit les gestes qu'elle avait accomplis.
Pour le magistrat-instructeur, l'enjeu est toujours le même. Est-ce que l'accident est plausible? Est-ce qu'Edith Scaravetti a agi seule? La juge lui demande d'abord de mimer la scène de violence dans la chambre, puis sur le palier devant les escaliers.
Maître Edouard Martial, avocat de la famille Bacca.
Les enfants sont à quelques centimètres, quelques mètres j'exagère, à la fois de la scène de violence, telle qu'elle est décrite, et du coup de feu.
Maître Pierre Lebonjour, lui aussi avocat de la famille Bacca.
Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu leurs parents crier, se disputer, s'insulter, se menacer? C'est extraordinaire. Quand il va y avoir des choses qui peuvent poser problème, Madame Scaravetti va se retrouver proche du malaise. Et donc on va la laisser s'asseoir, on va la laisser tranquille, et c'est très bien parce que humainement, ce ne sont pas des choses qui sont simples sans doute. Mais on passera à une autre question après.
Puis Edith Scaravetti explique que Laurent s'est couché sur le canapé, le canon de la 22 long rifle sur sa propre tempe, pour la mettre au défi de tirer.
Christian Brocard, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse.
On peut tout à fait, malgré la longueur de l'arme, appliquer soi-même la bouche du canon sur sa tempe et avoir encore un peu de marge pour, avec un doigt ou l'autre, actionner la queue de détente. Ce que dit Edith Scaravetti est plausible.
C'est possible. Comme le Père Noël. C'est quand même relativement peu crédible. Où c'est qu'on a vu une dispute où le monsieur s'allonge et lui tend le fusil? Ouais, pourquoi pas, je vais poser des questions à l'expert balistique et légiste là-dessus. Et eux, ils vont dire, oui, il y a plusieurs hypothèses, nous, on ne peut pas trancher.
Pourtant, une chose est sûre, le coup n'a pas pu partir tout seul.
On a fait subir des chocs à l'arme pour voir si le coup pouvait partir dans ces conditions-là. Mais non, c'est seulement s'il y a une pression sur la queue de détente, donc sur cette pièce-ci. Par contre, est-ce que c'est une pression qui est volontaire? Est-ce que c'est une pression qui est due à une tentative de reprise en main de l'arme parce qu'il y a une dispute entre les deux protagonistes? Ça, c'est quelque chose, par nos examens, qu'on ne peut pas indiquer.
Le brigadier-chef Stéphane Robert.
Est-ce que c'est Laurent Bacca qui lui-même a actionné la détente? Est-ce que c'est Edith Scaravetti qui a, par maladresse ou quoi, actionné la détente? Est-ce qu'elle l'a fait volontairement?
Maître Rémi Nougier, avocat de la partie civile.
Pour moi, c'est une exécution. J'ai la conviction que elle lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'il dormait.
Maître Pierre Lebonjour.
Alors est-ce qu'elle l'a tué au bout de la nuit? Ou est-ce qu'elle l'a tué en revenant d'avoir amené les enfants à l'école et qu'elle trouve cette espèce d'épave dont elle parle sur le canapé là étendu et qui ressemble à rien et qu'elle décide là, que le choc est tel que ça provoque un ras-le-bol, qu'elle n'en peut plus. Elle se dit là j'en ai marre, j'en ai assez, je tire. Nous, c'est ce qu'on a pensé. Voilà, après.
Edith Scaravetti, elle, ne change pas sa version d'un iota. C'est un accident. Ni la reconstitution, ni la science ne permettent de trancher. Mais les parties civiles restent sur leurs convictions. D'autant qu'elles ne comprennent pas pourquoi Edith n'a pas appelé le 17.
Je crois que la réaction légitime qui aurait dû probablement être la sienne, c'est de prévenir les services de secours en disant « voilà ce qui s'est passé, il m'a frappé, on s'est disputé, il a pris le fusil, le coup est parti ». Et je pense que à ce moment-là, on l'aurait davantage cru.
Brigadier Alexia Monesma.
On lui pose la question. Mais bon, elle explique que elle n'a pas appelé police secours parce qu'elle savait qu'elle ne verrait plus ses enfants. Quoi.
Ensuite, Edith explique comment elle s'est débarrassée du corps. D'abord sous la pergola, puis dans les combles. Et là, elle bluffe tout le monde.
C'est assez impressionnant. Parce qu'elle a beaucoup de force par rapport à son gabarit.
C'est un mannequin hein, qui est sanglé, avec la sangle qui avait été utilisée au moment des faits. Et elle hisse le corps toute seule, sachant qu'au moment où elle le fait, elle a perdu du poids puisqu'elle était en détention, donc elle avait maigri. Mais elle est arrivée à hisser le corps.
Le ciment, elle sait le faire. Elle savait où trouver les objets, nous les a désignés. Elle a montré ce qu'elle avait utilisé, où c'était, où est-ce qu'elle les avait trouvés, où est-ce qu'elle les avait remis. C'était assez, machinal. On n'a pas de doute particulier à ce niveau-là. Elle a agi seule.
Dominique Edith Scaravetti, elle a évidemment été expertisée par des psychiatres et des psychologues. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors, les experts, psychiatres, psychologues, décrivent tous l'emprise que Laurent a sur Edith. Ils observent chez elle un état dépressif, une détresse psychologique, en même temps qu'une sorte de froideur émotionnelle, un détachement. Elle réprime ses sentiments, elle met à l'écart ses émotions. C'est une femme résignée et selon les experts, son passage à l'acte est en lien avec les dispositions fragilisées de sa personnalité.
Mais est-ce qu'elle réalise la gravité de ses actes ou pas ?
Non, elle n'éprouve pas de sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une distance entre elle et la réalité. Une incapacité à réaliser ce qu'il s'est passé, donc une incapacité à culpabiliser. Elle reconnaît les faits, mais elle ne semble pas les intégrer sur le plan psychique, disent les experts. Elle parle de Laurent Bacca au présent, et elle a encore peur de lui. Elle ne réalise pas encore qu'il est mort. Elle dit « J'ai toujours peur qu'il réapparaisse et qu'il s'en prenne aux enfants. » Et elle se dit soulagée d'être incarcérée parce que c'est une autre vie. Elle dit en détention « J'ai le sentiment d'avoir davantage de liberté que lorsque je vivais en couple. » Et les experts concluent « Elles se sont écoutées, elle est soutenue. » C'est comme si elle était protégée en prison.
Et les trois enfants ? Elle en parle des trois enfants ou pas ?
Oui, elle en parle et c'est surtout pour eux qu'elle se fait du souci. Elle souffre d'être séparée d'eux, d'être éloignée d'eux. En fait, elle ne tenait que pour eux auprès de Laurent. Et elle explique qu'elle a toujours cherché à les protéger. Ça a été son souci principal.
À la fin de l'instruction, Edith Scaravetti est finalement renvoyée devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour meurtre sur conjoint. Son procès s'ouvre le 19 mars 2018. L'accusé encourt la perpétuité. Mais dès l'ouverture des débats, une autre affaire s'invite à l'audience. L'affaire Jacqueline Sauvage.
Au Journal de France 2, le 23 janvier 2016, on couvre les manifestations.
Grâce et liberté pour Jacqueline Sauvage. Voilà ce que scandent les manifestants. Le 4 décembre dernier, Jacqueline Sauvage est condamnée en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. Trois coups de fusil dans le dos pour en finir, dit-elle, avec 47 ans de violence conjugale quasi quotidienne, sans jamais porter plainte.
David Sena, avocat général.
Le procès Scaravetti, il s'ouvre dans ce contexte. Et je dirais que la défense d'Alice Scaravetti n'a pas eu trop à en faire pour qu'en effet ce contexte lié à l'affaire Sauvage s'impose et s'invite au sein de la cour d'assises de Haute-Garonne.
Effacée et timide, Edith Scaravetti s'assoit dans un box qui semble trop grand pour elle.
Élise Costa, journaliste à Slate.
On la sent en retrait complètement, presque en retrait du monde. Et en fait, au troisième jour, elle se lève et elle prend enfin la parole. Et là, elle va parler pendant 2h30, 3h, sans jamais demander à s'asseoir, et elle va raconter toute sa vie.
Le président de la cour d'assises ne l'interrompt pas et lui laisse le temps d'évoquer son quotidien avec Laurent Bacca. Et puis, dans un silence pesant, elle en vient au viol qu'elle a subi à 12 ans dans les douches d'un camping. Et à la manière dont Laurent Bacca le lui faisait revivre régulièrement.
C'est un moment extrêmement marquant. Parce que, bien sûr, on se rend compte de ce qui se joue dans ce huis clos, familial et conjugal. Et elle dit, ça m'a énormément blessée, mais moi, je me suis rattachée au fait qu'il m'avait vraiment écoutée. Il m'avait entendue. Quand elle raconte ça, elle explique, en fait, les violences conjugales. Elle raconte, en fait, comment on se rattache à des petites choses... Même dans l'horreur.
Maître Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti.
Lorsque la suspension intervient, je découvre une Edith complètement rincée, au bord de l'épuisement, parce que ça lui a coûté extrêmement à la fois psychologiquement et physiquement. Elle a, à cette occasion, tout livré.
Elle a tout livré, mais c'est toujours sa version des faits, sur leur vie et sur le crime.
Élise Costa.
La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un accident? Et pour moi, quand elle raconte tout ça, je me dis, bah oui, effectivement, ça peut être un accident. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, le doute doit toujours profiter à l'accusé.
Côté accusation, son récit n'est pas satisfaisant. L'accusé en a trop dit sur les violences conjugales et pas assez sur la mort de Laurent Bacca.
David Senna, avocat général.
On ne peut pas avoir des mobiles personnels, des raisons subjectives de vouloir tuer quelqu'un et en même temps dire qu'on lui a tiré dessus accidentellement. Il y a une contradiction dans les termes.
Maître Pierre Lebonjour, avocat de la famille Bacca.
On se dit, cette dame va se faire très lourdement condamnée. On est persuadé de ça, parce que ses réponses ne sont pas satisfaisantes, parce qu'on voit qu'il y a un loup, on sent qu'il y a un calcul, et on se dit « ça ne va pas passer ».
De fait, les réquisitions sont intraitables, 20 ans de prison. Pour l'avocat général, pas de doute, c'est bien un meurtre volontaire, aggravé par une dissimulation de cadavres et des mensonges.
David Senna.
On peut comprendre qu'elle ait tué Laurent Bacca, même si elle n'était pas en état de légitime défense. Ce qu'on comprend moins, c'est son attitude après les faits, qui tout de même donne à son geste une couleur beaucoup plus sombre.
Après 5 jours de débat, la cour part délibérée et 3 heures plus tard, c'est un choc pour tous.
Élise Costa.
Le président de la cour d'assises arrive... Et il commence par dire « Je vais vous lire la décision, non pas pour que vous l'acceptiez, mais pour qu'elle soit comprise. »
Maître Édouard Martial.
On se regarde avec le bonjour. Ouh là là. Ouh là là. On est vers l'homicide involontaire. Et ça tombe.
Edith Scaravetti est reconnue coupable d'homicide involontaire sur Laurent Bacca. Et il la condamne à 3 ans d'emprisonnement.
Pour homicide involontaire, Edith Scaravetti a déjà fait plus de 3 ans en prison. Elle est donc libre.
Maître Georges Catala, avocat d'Edith Scaravetti.
Étant entendu que nous avions fait 3 ans et demi d'incarcération, c'est pour nous une immense satisfaction. Comment dire, on a reçu tellement de baves dans des cours d'assises que... Pour nous, voir une mère de famille qui a 3 enfants et avoir la satisfaction d'imaginer que ces 3 enfants vont être auprès de la mère ce jour-là, après que le verdict ait été prononcé, c'est à l'évidence pour nous une immense récompense.
Maître Laurent Boguet, avocat lui aussi d'Edith Scaravetti.
Edith ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je suis submergé. J'en ai de souvenirs très précis parce que c'est ces moments de justice qui nous obsèdent.
Maître Édouard Martial, avocat de la famille Baca.
De notre côté, c'est l'abattement, c'est l'écœurement, c'est l'écroulement. Mais que dire de plus ?
Mais les parties civiles vont vite se rassurer, il n'y a pas de doute. L'avocat général va faire appel.
David Sénat.
J'aurais beaucoup mieux compris un verdict d'acquittement. Il aurait été douloureux, mais il aurait été beaucoup plus rationnel et peut-être beaucoup plus courageux. Là, c'est un verdict intermédiaire qui a un caractère absurde.
Edith Scaravetti retrouve son emploi d'aide à domicile et surtout ses trois enfants. Et quand son procès en appel s'ouvre devant les assises de Montauban le 13 mai 2019, elle comparaît libre. Elle risque une nouvelle fois la prison à vie.
L'avocat général n'a pas changé. David Sénat portera encore l'accusation aux côtés d'un président moins disposé, cette fois-ci, à écouter les plaintes de l'accusé.
Élise Costa.
On sent que ça ne va pas être le même procès. On sent que ça ne va pas être les mêmes questions. Que la personnalité d'Edith, pas trop ce qui nous intéresse. Ce qu'Edith a vécu, pourquoi le crime est arrivé, ça ne va pas être au cœur du sujet, non.
Cette fois, pas question de s'apesantir sur les violences conjugales ou l'emprise que Laurent Baca a exercée sur sa compagne.
On parle quand même, en la personne d'Élise Scaravetti, d'une jeune femme qui a 27 ans au moment des faits, qui habite Toulouse, qui a une intelligence supérieure à la moyenne, qui a su mener à bien un parcours scolaire, une formation, un emploi, qui a conquis une autonomie, une certaine indépendance, et qui pouvait parfaitement quitter ce milieu s'il était aussi toxique qu'elle l'a prétendu. On ne parle pas de la France des années 40, 50, au fin fond de la campagne.
Une position que partage le président.
Bruno Frediani, journaliste à France 3 Toulouse.
On a très franchement l'impression que sa conviction est faite à lui, président, et qu'il veut un tout autre procès que le premier procès.
Lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ce qui va se passer après la mort de Laurent Baca. Et il va y avoir des moments extrêmement gênants où il va diffuser les photos à la cour d'assises de la reconstitution en commentant à chaque fois, en disant « Mais là, madame, quand vous le déterrez, il y a l'odeur, il y a les fluides de putréfaction. »
Maître Georges Catala, avocat d'Edith Scaravetti.
Comment avez-vous fait, madame ? Vous l'avez mis où ? Vous l'avez porté sur le dos ? Répondez ! Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Et puis ensuite, quand il est en haut, vous avez déjà fait de la maçonnerie ? Oui, j'en ai fait, bon. Et vous allez lui faire une sépulture de ciment, et il est au-dessus de vous, au-dessus des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Si on prend qu'un petit bout, et qu'on laisse de côté l'autre, eh bien, la justice ne peut pas être rendue.
Quand on commet un accident de tir, ce qui peut arriver, ben on n'enterre pas quelqu'un au fond du jardin, en plein été, et encore moins dans un sarcophage. Donc, les débats ont, sur ce point, été plus équilibrés, sans qu'ils soient excessifs par ailleurs.
La charge s'est tout de même durcie. La partie civile elle-même en convient.
La gêne, on l'a tous ressenti. Dans ce procès, il y a eu 2 ou 3 jours où on était mal. Edith Scaravetti a vécu un procès en appel, pour moi, à mon idée, comme on n'en souhaite à personne.
Edith Scaravetti était en lévitation, dans l'impossibilité de prendre fait et cause pour sa cause à elle.
Et même physiquement, on la voit toute seule sur ce banc, dans cette immense box vitrée, et on sent qu'elle se recroqueville sur elle-même.
Elle est tétanisée, prostrée. Elle se rend bien compte que cette fois-ci, c'est pas la même chose et qu'il se pourrait très bien qu'elle perde ses enfants.
Pourtant, l'avocat général prononce des réquisitions moins sévères qu'en première instance. 15 ans de réclusion criminelle.
Je propose 5 ans de moins parce que les débats m'y ont conduit. Tout avait été dit, absolument tout. On a parfaitement compris, au terme de ces débats, comment elle l'avait tué volontairement, indépendamment de toute agression dans le même temps de l'action. Cela s'est-il passé au cours de la nuit, comme le dit Edith Scaravetti, ou alors, au contraire, au matin, après qu'elle ait accompagné ses enfants à l'école? Personne n'est capable de le dire avec certitude. Il est beaucoup plus vraisemblable que les faits ont eu lieu dans un huis clos total. Laurent Bacca étant seul dans la maison, c'est plus probablement comme ça que les choses ont pu se passer. Donc on est dans l'atteinte à la personne, à la fois l'intégrité, la vie humaine et la dignité. Ça justifie une peine importante, une peine sévère, qui pouvait être de 15 années.
C'est-à-dire que ce qui était établi par tout le monde et qu'il a bien voulu concéder du bout des lèvres, cette espèce de chemin de croix subi par cette femme, eh bien, il n'en tiendra absolument pas compte dans ses réquisitions. Il considérera qu'au moment où elle aurait tiré sur son copain, c'est dans le cadre d'une tranquillité d'esprit remarquable.
Le verdict tombe à l'opposé du verdict de première instance. Cette fois, c'est la thèse de l'homicide volontaire qui a été retenue.
Maître Rémy Nougier, avocat de la partie civile.
Edith Scaravetti est-elle coupable d'avoir donné la mort à Laurent Bacca? La réponse est oui. Est-ce qu'elle a fait volontairement? La réponse est oui. Et donc, derrière, il prononce la peine de 10 ans de réclusion criminelle.
10 ans au lieu de 3 en première instance.
Pas de cris, pas de larmes. On s'efface. On regarde ses souliers. On n'existe pas. On s'oublierait presque. C'est ça, Edith Scaravetti. C'est un monde qui change pour elle, qui bascule d'un moment à l'autre.
C'était un verdict qui reconnaissait la valeur de l'interdit fondamental, le premier commandement, tu ne tueras point, pas de permis de tuer. Il y avait d'autres possibilités d'agir que de tuer pour se protéger si Edith Scaravetti était agressée. Mais en même temps, elle était accessible un an et demi après à la libération conditionnelle qui ne poserait aucune forme de difficulté compte tenu de la personne qu'elle était. Donc, je dirais que tout le monde, a pu voir ses intérêts reconnus.
La famille Bacca est soulagée. D'autres se posent des questions.
Élise Costa, journaliste à Slate.
Ça fait un peu peur de se dire, c'est un même dossier, ce sont les mêmes protagonistes, c'est les mêmes faits, et on arrive à un verdict différent. Et on se dit, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants? Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Edith Scaravetti ne s'est pas pourvue en cassation. Elle n'a pas demandé de grâce présidentielle. Elle est retournée en prison pendant 14 mois avant d'obtenir une libération conditionnelle pour conduite irréprochable.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent
ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.